territoire. Le forum sur l'évaluation de l'acte d'engagement signé entre les groupes armés et le gouvernement congolais en 2008 a clôturé ses travaux samedi dernier à Goma dans le Nord Kivu. À l'issue de ces assises, les participants venus des deux Kivu et de l'Ituri ont adopté un plan d'action qui consiste notamment à faire pression sur les groupes armés réfractaires au processus de paix. Comment analyser les plans d'action issus de ces forums? C'est le débat de ce soir. Et nous avons au téléphone M. le gouverneur du Nord Kivu, M. Julien Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir M. le journaliste, bonsoir à tous les Congolais et toutes les Congolaises qui nous suivent en ce moment.
Thomas Dakin Mouiti, président de la coordination provinciale de la société civile Les Forces Vives du Nord Kivu. Vous êtes aussi président du cadre des concertations de la société civile en province. Vous êtes un des organisateurs de ce forum. Bonsoir M. Thomas Dakin Mouiti.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à mes co-débatteurs, son excellence le gouverneur Didier Bitaki.
Et Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit international humanitaire. Bonsoir Monsieur Didier Bitaki. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À Goma, c'est le samedi dernier qui s'est clôturé le forum sur l'évaluation de l'acte d'engagement de janvier 2008. Quatre jours durant, au moins une soixantaine d'acteurs venus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri ont évalué cet acte d'engagement qui a sanctionné la conférence sur la paix et le développement dans la région il y a 10 ans. Un plan d'action pour le suivi des clauses du dit document a été émis par les participants. Marc Marofimbo nous en fait le point.
C'était tard dans la soirée le vendredi dernier que l'autorité provinciale a procédé à la clôture officielle de ce forum de 4 jours. Pour Julien Paluku, la satisfaction est grande car les participants se sont exprimés sur les problèmes réels de la sécurité dans la région. Il souligne toutefois que les erreurs du passé devraient être corrigées. Julien Paluku.
Je suis satisfait que les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri se soient retrouvés. Et surtout, qu'il y ait cet échange d'expérience pour que les ratés que nous avons connus constituent des leçons pour nous pour dire nous avons échoué à telle étape à cause de ceci et que désormais, s'il faut corriger, on doit aussi corriger à tel niveau. Parce qu'on ne peut pas aussi ne pas reconnaître qu'il y a eu des ratés. Et quand il y a des ratés, ce qui est bon pour l'homme, c'est de les accepter. Mais ce qui est mal pour l'homme, c'est de ne pas accepter les échecs. Mais pour nous, nous sommes d'avis qu'il y a eu des échecs que nous avons connus et que nous devons corriger pour arriver vers la perfection.
Satisfaction également pour le vice-gouverneur de la province de l'Ituri qui dit que de nouvelles expériences sont acquises pour porter solution aux problèmes sécuritaires, particulièrement dans sa province, Pacifique Keta Upar.
C'est une bonne expérience. Quoi, une des recommandations d'ailleurs qui nous a été faite, c'est essayer de copier ce modèle qui a eu lieu en 2008 et que nous pouvions voir un peu comment est-ce qu'on pouvait le faire chez nous. Mais pour nous, c'est déjà au moins une grande contribution. On a vu comment est-ce qu'ils ont pu procéder et ça nous aidera. Et aussi, c'était l'occasion aussi de parler de certains de problèmes au niveau de nos limites, quel type de problèmes qui nous jonchent. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous, dans les jours à venir, comment nous pouvons les aborder.
Bien que le plan d'action soit désormais disponible, les défis restent les moyens financiers pour qu'il soit effectif. Thomas Dakemwiti, président de la société civile Coordination du Nord Kivu.
C'est bon d'avoir un plan d'action, mais c'est mieux de trouver également ce qui va l'accompagner pour que la paix revienne ici. Et donc, il y a un défi de mobilisation des ressources, mais nous pensons que, comme le plan est déjà là, nous allons le soumettre à toutes les parties prenantes concernées, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les hommes et les femmes qui ont besoin de la paix. Nous allons leur soumettre le plan et chacun va donner sa contribution et nous avons l'espoir.
Les participants à ces assises se sont engagés tous à faire un suivi de ces plans d'action pour que la stabilité revienne dans les 4 provinces de l'Est de la RDC. Parmi les actions contenues dans ces plans, il y a notamment des pressions à exercer sur les groupes armés locaux réfractaires au processus de paix. Goma, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Merci à vous, Marc Maro Fimbo, Thomas Daquin Mouiti. Nous allons commencer avec vous parce qu'en fait, vous êtes l'organisateur de ces forums. Je rappelle que vous êtes président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu. Vous êtes aussi président du cadre des concertations de la société civile en province. Monsieur Thomas Daquin Mouiti, qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, l'organisation de ces forums?
Merci Guy Marté. Je vais commencer par corriger quelque chose dans tout ce que vous avez présenté en rapport avec les participants. Il faut noter que les participants ne sont pas seulement venus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, mais il y avait un grand nombre de grandes personnalités qui sont venues de Kinshasa et de toutes les institutions, en commençant par des ministres nationaux, des députés nationaux, des notabilités, des ex-ministres, des ex-députés. Et donc, ça, c'est important à souligner. En deuxième lieu, la conférence de Goma que l'on avait intitulée la conférence sur la paix, la sécurité et le développement des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avait connu l'initiative était venue du chef de l'État lui-même. C'est moi qui avais conduit une forte délégation de notables du Nord Kivu et du Sud Kivu auprès du chef de l'État à Kinshasa. Et lorsqu'on avait présenté la situation globale sur le plan sécuritaire et économique, le chef de l'État avait convoqué la conférence de Goma. Voilà. 10 ans après, on s'est dit, mais comment on peut rester sans savoir ce qui s'est passé, surtout avec la situation actuelle au niveau de nos provinces à l'Est. Nous avons pensé que ça vaut la peine que nous puissions nous asseoir. Et c'est pour moi l'occasion ici encore une fois de remercier tous ceux qui sont venus de Kinshasa, de l'Ituri, du Sud Kivu et de tous les territoires et villes de la province du Nord Kivu pour leur dire en tout cas merci. Et cela n'est pas gratuit puisque la Bible dit que heureux ceux qui font la paix puisqu'ils seront appelés fils de Dieu.
Oui, M. Thomas Daquin Mouiti, un forum sur l'évaluation de l'acte d'engagement. Et qu'est-ce qui ressort de votre évaluation? Est-ce que cet acte a été respecté par toutes les parties signataires?
Écoutez, nous, avec l'évaluation qui a été faite, il y a lieu de signaler les avancées, comme venait de le dire le gouverneur de province, son excellence Julien Paloukou. Il y a des avancées. À l'époque, il y a eu des guerres qui ont été menées dans l'objectif de la balkanisation de l'Est de la République. Et aujourd'hui, le pays continue à garder son intégrité. Ça, c'est un peu une première avancée qu'il faut retenir, puisque je sais que dans les questions que vous allez me poser, vous allez m'opposer le nombre de groupes armés qui pilulent à l'Est aujourd'hui, mais il faut noter que aujourd'hui, 50 groupes armés qui sont opérationnels au Nord Kivu ne valent pas un seul groupe armé à l'époque. Je donne l'exemple du CNDP qui était un groupe armé très actif et qui menaçait l'intégrité territoriale, qui menaçait d'aller jusqu'à Kinshasa. Et donc, les autres groupes armés opérationnels aujourd'hui ne sont plus n'ont plus la capacité de menacer Kinshasa, de menacer l'intégrité territoriale. Et donc, voilà, nous avons identifié également les aspects liés à la reconstruction. Il faut noter que, par exemple, pour la ville de Goma, la ville de Butembo et la ville de Beni, qui n'ont jamais connu un seul kilomètre de route macadamisée, aujourd'hui à Goma vous pouvez en enregistrer une dizaine de kilomètres, à Butembo je pense aussi plus de 10 kilomètres. Et donc il y a deux avancées, mais comme l'a dit son excellence le gouverneur, il y a eu aussi des ratés. Puisque dans à l'issue de la conférence de Goma, il était prévu qu'on passe au brassage. Au lieu de brassage, un officier congolais on ne sait pas qui venait d'où, au lieu de passer au brassage, il est allé jusqu'à utiliser un nouveau concept qui n'était pas prévu, c'est qu'il a qualifié de mixage. Et le mixage, je pense que c'est le premier raté qui a fait que notre armée soit infiltrée par des personnes non suffisamment identifiées, on ne sait pas d'où ils venaient. Le mixage est à l'origine de la faiblesse même de l'armée. Le mixage est à l'origine de l'échec même de cette intégration de l'époque, puisque même les groupes armés qui devaient être cantonnés ici et là avec le DDR1, le DDR2, que nous considérons aujourd'hui comme des échecs. Mais aussi le mixage a été à l'origine, à l'époque, de la démission de ces groupes que vous avez qualifiés de réfractaires. Il y a eu APCLS, il y a eu La Fontaine, qui se sont retrouvés ne plus adhérer au processus de quitter les groupes armés. Ils sont rentrés en bourse à cause de ce qui a été amené comme nouveau concept de mixage.
Et donc, merci.
Si nous mettons toutes ces faiblesses sur la table, vous allez comprendre que ça valait la peine que nous puissions nous asseoir pour évaluer ce qui s'était passé en 2008, 10 ans après. Il fallait comprendre qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui ne l'a pas.
Merci, Monsieur Thomas Dakin-Mouiti. Je vais revenir à vous. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous étiez présent, n'est-ce pas, lorsque cet acte avait été signé en 2008. Aujourd'hui, 10 ans après, comment vous évaluez, n'est-ce pas, l'acte d'engagement de Goma? Vous avez suivi le président de la société civile, Monsieur Thomas Dakin-Mouiti, qui parle des avancées, notamment la balkanisation qui n'a pas réussi. Et il parle de quelques routes qui ont été construites. Et il parle aussi, n'est-ce pas, de quelques ratés, notamment les mixages. Quelle est l'évaluation que vous faites, n'est-ce pas, de cet acte d'engagement de 2008?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais donc, comme il l'a fait, saluer monsieur le président de la société civile et dire que la conférence de Goma voulait réfléchir sur toute l'insécurité qu'il y avait, comment on pouvait proposer au gouvernement des solutions, qu'est-ce qu'il fallait faire à cette époque avec la multiplicité de groupes armés au nord et au sud Kivu, parce qu'il y en avait à peu près 9 groupes armés, dont les plus virulents, comme il le disait, c'était le CNDP. Au sud Kivu, il y avait à peu près 13 groupes armés, avec Yakutumba qui était en tête. Et moi, je crois que parmi les grandes avancées, c'est que tous ces groupes armés au nord comme au sud Kivu ont disparu, sauf peut-être un ou deux au nord comme au sud Kivu. Des deux, il y a eu presque intégration de ces groupes armés dans les forces armées. Il y a eu une loi d'amnistie qui avait été votée en son temps, et on a observé quand même une accalmie, même si quelques jours après, pratiquement 8 mois plus tard, le CNDP de Laurent Kunda avait brisé le cessez-le-feu pour recommencer la guerre au mois d'août 2008. Donc moi je considère que sur le plan formel, eh bien la conférence de Goma avait plus ou moins atteint ses objectifs et que on avait un semblant d'accalmie. Mais comme Laurent Kunda à l'époque à l'exemple du cheval de Troie dans la mythologie grecque par la ruse, comme vous le savez, Ulysse avait réussi à s'emparer de la ville de Troie, eh bien Laurent Kunda était aussi un cheval de Goma qui s'était infiltré dans le nord Kivu et il avait constaté qu'il avait été démasqué. C'est ainsi qu'il s'est rétracté des actes d'engagement 8 mois plus tard pour refaire la guerre. Et c'est ce qui a fait effectivement que les autres groupes armés qui étaient signataires des actes d'engagement ont finalement par comprendre que c'était par la ruse que le CNDP avait adhéré au processus de paix et ça a remis en cause presque tout le processus qui avait été mis en place en janvier 2008. et tout s'est déroulé très mal parce que déjà en 2009, il y a eu d'autres actes d'engagement, notamment les accords du 23 mars 2009 qui avaient été signés et qui sont les éléments précurseurs de la guerre du M23. Donc vous comprenez que la suite des actes d'engagement a été périlleuse par le fait qu'elle n'a pas duré plus de 8 mois. Mais ce que nous notons quand même, c'est qu'il y a eu des solutions à l'époque qui sont devenues des problèmes et qui sont à la base, effectivement, de la résurgence des groupes armés. Solutions devenues problèmes, c'est comme les grades qu'on a attribués aux ex-combattants ont ravivé dans les chefs de certains miliciens du Nord Kivu le sens de croire que lorsqu'on va en brousse, on peut devenir tout de suite colonel, major et même général. Ça, c'est un élément important. Moi, je crois que l'autre élément aussi, c'est que l'intégration que nous avons pu faire et même la réaffectation des anciens combattants dans les espaces où ils ont commis des forfaits, ça a été quand même l'un des ratés. Mais j'ai toujours dit, tout en ayant raté, j'ai toujours compris que avoir mal tiré ne signifie pas qu'on ne voulait pas atteindre l'objectif. Ou alors, avoir mal tiré n'est pas un signe de mauvaise foi. On a cherché à résoudre un problème, mais on a quand même connu des petits problèmes par la suite, ce qui ne signifie pas que le gouvernement congolais ne voulait pas résoudre l'ensemble des questions qui se posaient dans la province du Nord Kivu. Voilà plus ou moins les commentaires que je peux faire in globo sur la situation générale de l'évaluation des actes d'engagement de 2008 sur le plan pédagogique, parce qu'il y a des jeunes gens de 30 ans, de 25 ans, de 20 ans qui avaient 10 ans, 15 ans à cette époque-là, qui n'avaient aucune notion de ce qui s'est passé à ce temps-là.
Oui, monsieur le gouverneur, vous faites une évaluation positive, n'est-ce pas, de cet acte d'engagement, mais on se rappelle que cet acte avait comme objectif primordial éradiquer les groupes armés locaux et comme objectif ultime les rapatriements, n'est-ce pas, des groupes armés étrangers, mais on se rend compte que aucun de ces objectifs n'a été atteint, en dépit du fait que vous dites que les groupes armés n'existent plus au sud et au nord Kivu.
Oui, moi je pense que les signataires de ces actes d'engagement sont bien connus. Si nous devons être objectifs, les signataires de ces actes d'engagement n'existent plus. C'est-à-dire les CNDP, les PARECO, les Kassindiens, les Maïmaï Rwenzori, les Maïmaï Kifuafua, les Maïmaï Vurondo, les Maïmaï Mongols, l'IJPS, c'est quand même des groupes armés que je connais très bien qui n'existent plus. Même si aujourd'hui on peut parler de Maïmaï Mazembe, de Nyatura ou de Maïmaï Charles, etc., des corps du Christ qui sont venus ressusciter, on ne sait de quel tombe, ça on en parlera peut-être. Mais au moins sur le plan formel, ces groupes-là n'existent plus aussi bien au nord comme au sud Kivu, sauf un ou deux sur les 19 qui sont signataires de ces actes d'engagement. Et je rappelle que les FDLR ou les EDF ne sont pas des signataires de ces actes d'engagement parce que eux n'étaient pas concernés par la conférence de Goma, étant donné que les FDLR étaient concernés par le communiqué de Nairobi qui avait été signé en novembre 2007 et qui devait être traqué comme tel parce qu'ils ne devaient pas intégrer un processus interne à la République démocratique du Congo.
Oui, mais on se rappelle aussi que cet acte d'engagement était consécutif au communiqué de Nairobi de 2007. C'est parce que, n'est-ce pas, on voulait obtenir les rapatriements des groupes armés étrangers et qu'on a envisagé, n'est-ce pas, de signer cet acte d'engagement. Mais on se rend compte que ces groupes armés étrangers sont toujours là, continuent à sévir au nord Kivu. Et même les groupes locaux sont toujours là, même si vous dites que ceux qui ont signé cet acte n'existent plus, même l'insécurité est toujours une réalité dans cette partie du pays.
Oui, je ne peux pas éviter la question. L'insécurité est toujours là, les groupes armés sont toujours là. La première réponse à ça, c'est que les problèmes sont liés à la nature humaine, ça c'est évident. Mais également, je dois reconnaître que pendant 10 ans, eh bien, on n'a pas réussi totalement à restaurer l'autorité de l'État, comme c'était bien stipulé dans les actes, parce que pour être honnête, je l'ai dit dans l'introduction, lorsque vous m'avez fait passer en introduction, ne pas reconnaître certains éléments qu'on n'a pas fait n'est pas aussi une des qualités des hommes normaux. on doit reconnaître que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés au départ, et c'est ce qui fait effectivement que nous avons participé à cette évaluation pour dire qu'est-ce qu'on peut nous reprocher comme pouvoir public, comme État congolais.
Merci.
Pour que nous puissions rectifier les tirs. Et là, nous sommes d'avis qu'au niveau de la restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire au niveau des instruments de la puissance publique, l'armée, la police et la justice, nous avons encore à faire pour que nous nous rassurions que nos populations sont totalement sécurisées.
Merci,
et que
gouverneur.
Les miliciens, les groupes armés locaux comme étrangers sont totalement neutralisés.
Merci. Didier Bitaki, bonsoir, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Voilà, je rappelle que vous êtes expert en désarmement et en droit international humanitaire. Vous êtes aussi un des anciens, n'est-ce pas? Vous avez fait partie des groupes armés. Et votre analyse par rapport à l'évaluation de l'acte d'engagement de Goma de 2008?
D'abord, je salue le gouverneur des provinces pour d'abord cette analyse qui vient de présenter en rapport avec les échecs et les réussites que les acteurs du programme Amani et les différents signataires des actes d'engagement ont pu réaliser. Mais pour être un peu plus clair pour cette question, nous devons fixer l'opinion quant à la nature même de la conférence de paix de Goma. Parce que là, on risque même d'aller tout droit dans une matière qui nous mettra encore en confusion. La première des choses qu'il faut retenir est que ces actes d'engagement de Goma n'étaient pas les seuls documents ou le seul acte constituant une feuille de route pour résoudre les problèmes à l'essai. Il y a eu des recommandations et des résolutions ici de la conférence de paix de Goma qui devait être mise en œuvre d'une part par le gouvernement, d'autre part par la communauté internationale qui était suffisamment représentée et d'une autre part par le gouvernement, les groupes armés qui avaient signé l'acte d'engagement qui les concernait directement. Mais pourquoi cette conférence? Cette conférence était une suite logique du communiqué conjoint de Nairobi signé en novembre, je pense le 17 novembre 2007, par le gouvernement congolais et les acteurs, les pays membres de la CIRGL à Nairobi, pour trouver une issue à la question, à la problématique que posaient les groupes armés étrangers sur le territoire congolais et l'insécurité même qu'il présentait pour le pays de la région des Grands Lacs, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ces groupes armés visés étaient les FDLR en tête, il y avait les FNL, il y avait les ADF Nalu, il y avait le groupe la Lord Resistance Army. Ce sont là l'ensemble de groupes qui étaient visés par le communiqué conjoint de Nairobi. Mais tout ce groupe-là se trouvait à l'époque sur le territoire congolais et il appartenait donc au gouvernement congolais de trouver des mécanismes à pouvoir soit les rapatrier pacifiquement ou alors utiliser la force pour les pousser à rejoindre leur pays, c'est-à-dire les désarmer sur le sol congolais et les ramener dans leur pays respectif après qu'ils aient déposé les armes. Mais compte tenu de la faiblesse des forces qui opéraient dans la région en cette époque où on avait 13 brigades intégrées, bon, qu'on disait brassées, ces brigades-là, d'une part, faisaient face à des groupes internes qui empêchaient aux forces armées de procéder par les désarmements ou les rapatriements forcés des groupes armés étrangers. D'où pour trouver une solution, ça c'est le président de la République qui dépasse sa propre réflexion. Et je me rappelle, paix à son âme, le professeur Zaïd Ngoma qui était le principal acteur dans ce domaine pour persuader les chefs, afin qu'il y ait une solution en interne d'abord pour s'empêcher sur la question des groupes armés étrangers. Voilà comment la conférence de Goma a été convoquée pour essayer un peu de rapprocher ces groupes nationaux afin de les amener à déposer les armes et de laisser le chemin, laisser libre passage aux forces qui devaient désarmer les rebelles étrangers. Voilà le contexte dans lequel est intervenue la convocation de la conférence de paix de Goma. Malheureusement, lorsque l'acte d'engagement a été signé au terme de la conférence, avec l'ensemble des résolutions et recommandations qui s'en étaient sorties, on a assisté à une sorte d'un ping-pong où finalement les objectifs visés par l'acte d'engagement et qui était d'ailleurs mis à la disposition, sous la responsabilité plutôt, des acteurs armés eux-mêmes. Il s'est agi d'une confusion parce qu'il y avait des revendications politiques posées par les CNDP, les FRS et bien d'autres groupes nationaux, notamment les PARECO, parce qu'on ne voulait pas intégrer la question que ces acteurs-là, la question politique dans les discussions qu'il y avait autour de la commission technique mixte paix et sécurité qui traitait de la matière. En tout cas, le CNDP a quitté le programme et il s'est retrouvé encore en face du gouvernement. Ce qui a conduit encore une fois des nouvelles négociations à Nairobi pour signer finalement l'accord de paix de Goma en mars 2009. Voilà un peu la situation. Maintenant, lorsqu'aujourd'hui, on procède par l'évaluation des actes de la mise en œuvre des actes d'engagement de Goma, moi je me pose premièrement la question de savoir, est-ce que le cadre à travers lequel ces actes d'engagement ont été évalués 10 ans après, était-il approprié? Est-ce que les acteurs en présence étaient réellement ceux qui étaient appelés à les faire et après qu'ils l'aient fait, les recommandations, les résolutions ou les décisions qu'ils vont prendre, sont-ils opposables aux groupes armés ou non? Sont-ils opposables aux acteurs qui ont signé ces actes d'engagement? Parce que au moins, notamment la communauté internationale, le gouvernement congolais, la société civile et bien d'autres organisations ont signé ces actes d'engagement. Est-ce que les résolutions qui vont sortir, parce qu'ils disent qu'ils ont produit un cahier des charges, ces cahiers des charges-là comportent des points, sont-ils opposables à l'ensemble des acteurs qui ont signé les actes d'engagement? Je ne pense pas. Donc, moi, je pense que l'objectif a été raté d'abord par les acteurs du programme Amani, les acteurs du gouvernement qui devaient mettre en œuvre les actes d'engagement et par la suite même la communauté internationale. Je pense que l'évaluation de ces actes d'engagement, surtout qui tablerait sur la mise en œuvre, devrait mettre autour d'une table le signataire et tout ce qui était impliqué dans les processus de paix, afin de voir dans quelle manière on peut mettre fin à l'existence de groupes armés résiduels qui pullulent à l'est du pays et chercher des solutions sur l'existence de groupes armés étrangers qui étaient à la base de la convocation de la conférence de Goma.
Voilà, Monsieur Bitaki, vous êtes un des anciens, n'est-ce pas, des groupes armés. Et pourquoi vous n'avez pas été associé à ce travail d'évaluation de l'acte d'engagement de 2008?
Écoutez, moi je salue d'abord l'effort personnel de Michel Kassa, qui a fourni quand même, qui a mis en tout cas du tonus dans la pensée de ce qui était dans ce forum. Ça, c'est une organisation non gouvernementale, ce n'est pas l'État congolais. Des deux, même si je pouvais être associé, est-ce que j'étais en face des acteurs appropriés pour pouvoir donner ma propre réflexion, ma pensée pour mettre fin à cela? Est-ce que les consommateurs de l'idée que j'allais sortir étaient réellement ceux qui ont participé? Je pense. Le gouverneur a ouvert le forum et il l'a clôturé.
Merci.
Mais je ne pense pas qu'il ait été là pendant tous les travaux. Il ne devait pas avoir le temps.
Merci.
Et s'il s'est représenté, est-ce que le rapport lui a été réellement remis, qu'il s'y pense ou qu'il fasse rapport à sa hiérarchie? Il est le gouverneur de province, mais il a représenté l'État, c'est vrai.
Merci,
mais ça
Didier Bitaki.
Plus les autorités nationales que provinciales.
Merci. Merci, je vais vous redonner la parole. Monsieur Thomas Dakin-Mouiti, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kisangani.
Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. L'acte d'engagement, c'est bien. Mais l'application, signer un acte d'engagement, c'est bien, mais son application en est une autre. Et si dans notre pays, on tenait à respecter nos actes d'engagement, on ne devait plus vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, signer les actes d'engagement actuellement dans notre pays, avec le pouvoir actuel, c'est pour nous distraire, parce que ça ne portera rien tant que la culture de respecter ces actes est encore loin d'être dans les fiefs des Congolais.
Oui, M. Thomas Dakin-Mouiti.
Merci Guy Maté. Je pense que l'auditeur, le compatriote qui est à Kisangani a le droit de dire que l'application de l'acte d'engagement, il doute de son applicabilité. Je ne serais pas d'accord avec lui, je ne saurais pas non plus le contredire, mais ce qu'il faut noter est que la société civile de la province du Nord Kivu, en collaboration avec l'ULC qui vient d'être cité par Didier Bitaki, nous avons pensé comme des citoyens de ce monde. Il y a eu une grande activité qui a fait l'engouement du monde entier. Et 10 ans après, en tant que citoyen, nous avons pris l'initiative de mettre des acteurs autour d'une table pour qu'ils réfléchissent sur ce qui s'est passé. En réalité, après la conférence de Goma, on a mis sur pied trois organes. On a mis sur pied trois organes, le comité de pilotage, le comité de suivi et le programme STAREC.
Le comité de pilotage n'a pas fonctionné. On nous a signalé au cours de cette réunion, au cours de ce forum, que le comité, la dernière réunion du comité de pilotage s'est tenue en 2011. Vous comprenez, 7 ans après, le comité de pilotage ne s'est jamais réuni, mais notons quand même.
Et à votre avis, monsieur Thomas
Takemouki, plusieurs programmes qui se sont succédés. Il y a le programme Amani, il y a eu le DDR1, il y a eu plusieurs programmes au niveau de la communauté internationale pour Bitaki qui est un peu pessimiste. La communauté internationale est en train de mettre des paquets de l'argent. Mais ce qui a manqué dans tout ce que nous avons enregistré au cours du forum est que tous ces programmes n'ont pas connu du suivi, n'ont pas connu une quelconque évaluation, que ce soit au niveau de l'armée, puisqu'il y a eu, au niveau de l'armée, il y a eu le Sokola 1, le Sokola 2, le Amani, le Umoja Wetu. Tous ces programmes n'ont jamais connu une quelconque évaluation. Et je pense, avec les compatriotes de Kisangani, c'est ça la grande faiblesse qui s'est glissée.
Merci.
Il y a eu plusieurs initiatives importantes qui pouvaient nous amener à l'atteinte de l'objectif.
Merci Thomas Takemouki.
Le suivi n'a pas eu lieu.
Merci.
L'évaluation, ainsi de suite. Voilà.
Merci. Le suivi a posé problème. Monsieur le gouverneur, vous allez réagir à ces commentaires, n'est-ce pas, de Robert Bahom et de Bukavu.
Robert, Mohamed de Bukavu, citez-vous. La situation de sécurité en RDC est très déplorable. C'est vraiment une des preuves irréfutables que le gouvernement congolais n'a aucune politique réelle de sécurité publique, ni aucun programme national sérieux de lutte contre le phénomène d'insécurité. Autant des garçons d'insécurité prennent la française de l'État, le gouvernement congolais n'a pas le moindre souci de sécuriser la population. Je me demande alors pourquoi voter chaque année le budget de sécurité qui, curieusement, ne sert pratiquement à rien dans ce secteur de la vie nationale.
Monsieur le gouverneur Julien Paloukou.
Oui, je pense que la ligne n'était pas très très
oui,
bonne.
Vous allez nous excuser pour la qualité de ce son.
J'ai tiré quelque chose.
Oui.
Robert Bahom, je crois qu'il a essayé un peu de remettre en cause l'action du gouvernement par rapport à l'insécurité persistante, si j'ai bien compris la question.
Oui. C'est en fait ça, oui.
Oui, bon, moi je crois que sur le plan global, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, comparée à celle qu'elle était en 2008, ne doit pas aujourd'hui faire l'objet d'un grand commentaire. Lorsque vous prenez la situation de 2008, parce que j'étais élu en 2007, la ville de Goma, le territoire de Rutshuru, le territoire de Masisi, était presque sous emprise des mouvements rebelles qui avaient presque l'appui des pays de la région des Grands Lacs. C'était une guerre au vrai sens du terme, des groupes qui étaient inféodés aux pays voisins et tout le monde le sait, nous avons eu à les dénoncer. La République démocratique du Congo était sous menace de la balkanisation et tout le monde sait qu'il ne restait que quelques minutes pour que la guerre reprenne et qu'on revienne à l'époque de 1998 où le RCD avait commencé la guerre à partir de Goma. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de vivre est une situation de groupes armés locaux facilement maîtrisables et qui font face aujourd'hui à une armée qui est dans une recomposition et qui est en train de les traquer totalement. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Beni, ce qui se passe à Rutshuru, ce qui se passe à Lubero. Nous nous rassurons qu'aujourd'hui, dans les mois qui suivent, eh bien, les groupes armés locaux, aussi bien dans le sud du territoire de la province du Nord Kivu que dans le centre et au nord de la province du Nord Kivu, la situation sera totalement maîtrisée et nous ne sommes pas sous menace de la balkanisation à l'heure qu'il est. C'est ça la différence entre 2008 et 2018. Je crois que là, Robert Bahom doit se tranquilliser par rapport à la situation sécuritaire actuelle.
Merci, Monsieur Didier Bitaki. Il y a aussi une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Colosie.
Ignace Ndala depuis Kolwezi dans le Lualaba. Je pense que notre société est en train de faire face à une montée en puissance d'un phénomène qui est la résultante de la circulation de plusieurs armes entre les mains des citoyens. Je pense aussi que le renforcement de la mobilité de notre police, sa motivation et la sensibilisation de la population sur sa tâche sont autant de mesures.
Monsieur Didier Bitaki, vous allez nous excuser pour la qualité de ce son.
Bon, je comprends bien l'auditeur. Quelque part, il pourra avoir raison. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu désarmement. Ça, c'est un. C'est-à-dire, le programme DDR a complètement et littéralement échoué. Pourquoi est-ce que ce groupe armé existe-t-il encore? Parce que, tout simplement, l'objectif visé n'a pas été atteint. Donc l'objectif est visé par les acteurs impliqués dans les processus de paix qui avaient commencé et qui devaient aboutir à la dissolution totale et définitive des groupes insurrectionnels. Alors, aujourd'hui, on assiste à un problème que nous sommes en train de fuir la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la sécurité publique. Parce que dans un premier temps, nous oublions que le problème était posé plus par les groupes armés étrangers que par les groupes armés nationaux. Parce que la conférence de Goma recommandait que ces groupes armés étrangers fassent la priorité des actions des forces armées de la République. Aujourd'hui, la mission est détournée. Ces forces armées de la République s'attaquent beaucoup plus aux groupes armés nationaux qu'aux groupes armés étrangers. Malheureusement, dans les zones où les opérations se font, ce sont les groupes armés nationaux qui y sont, mais plutôt les FARDC n'y sont pas déployés. Et par la suite, ces groupes armés disent qu'ils protègent leurs familles contre les groupes armés étrangers. Voilà une confusion dans laquelle nous nous trouvons. Mais pour moi, je pense, la solution que nous devrions envisager, c'était plutôt de savoir identifier dans un premier temps les groupes et forces armées étrangers. Lorsque nous les aurons identifiés comme la menace que évoquait le gouverneur de balkanisation a été élagué des discussions actuelles, et ce qui est une réalité d'ailleurs. Je pense que nous devrions identifier alors la source de l'implication ou de l'engagement des pays étrangers à pouvoir menacer la RDC sous prétexte qu'ils poursuivent les groupes armés étrangers qui menacent leur propre sécurité dans leur pays d'origine. Après que nous les aurons identifiés en ce moment-là, soit on procède par l'air désarmement forcé et avec un engagement sérieux et ferme de la part des forces armées de la République, ou alors on cherche un autre mécanisme pour pouvoir les ramener dans leur pays sans que nous puissions commettre des cas ce qui se passe actuellement. Et ensuite, la deuxième étape concernera les groupes armés locaux. Parce que ces groupes armés locaux n'existent plus sur le plan formel du fait qu'il y a eu un communiqué le 18 novembre 2008. Qui disait que tout autre groupe qui détiendrait les armes sur l'ensemble du territoire congolais sera considéré comme un groupe armé non identifié, c'est-à-dire une milice privée ou bandit armé, que à son âme, l'abbé Malumalu avait produit un communiqué dans ce sens qui a été signé devant toutes les autorités. Alors tout ce qui existe aujourd'hui ne sont que des bandits armés. Si le gouvernement ou les forces armées peuvent décider de les désarmer, là il n'y a pas à négocier avec eux, ils doivent déposer les armes. Mais que ferons-nous de ces groupes armés étrangers si nous devons nous préoccuper d'abord de ce qui nous concerne en interne? On vient penser sur le problème qui vient de l'extérieur et qui souvent nous pose, en tout cas des conditions impossibles à résoudre. Je pense qu'on devrait plutôt orienter l'objectif dans ce sens pour que Ben y retrouve la paix, pour que Massissi soit dans la paix et Rutshuru, pour que le Sud du Sud Kivu retrouve également la paix, parce que là il y a des aides de l'air,
merci,
des
Didier Bitaki,
et tout autre groupe qui opère impunément.
Merci Didier Bitaki. Monsieur Thomas Dakin Mouiti, vous avez suivi Didier Bitaki qui, pour pacifier, n'est-ce pas, de manière efficace l'Est de la RDC, il parle il recommande de commencer par identifier les groupes forces armées étrangers et puis voir comment on peut procéder pour n'est-ce pas, les désarmer, et puis ensuite on peut maintenant commencer par s'occuper de groupes armés et locaux. Et qu'est-ce que vous avez à proposer pour pacifier de façon durable l'Est du pays?
Je pense que Didier Bitaki est en train de répéter justement tout ce qui a été dit au cours de ce forum. Il faut corriger quelque chose quand il dit qu'il remercie Michel Kassa. Non, c'est pas seulement Michel Kassa qui a pensé à lui. Nous avons organisé avec l'ULC et nous avons pensé inviter certains acteurs qui ont été signataires de l'accord de Goma, de l'acte de Goma.
Thomas Dakemouiti.
Nous avons pensé à Didier Bitaki, nous avons invité
Thomas Dakemouiti
qui était présent, dont des ministres, des députés.
Thomas Dakemouiti.
Mais ce qu'il faut noter, que on ne pouvait plus penser aux signataires qui ont intégré l'armée, qui ont intégré.
Thomas Dakemouiti, je pense que pour le moment, ce qui importe, monsieur Thomas Dakemouiti. Monsieur Thomas Dakemouiti, est-ce que vous me suivez?
Et donc, nous avons invité ce qui devait être invité. Tout ce que Didier Bitaki est en train de dire, c'est ce que nous avons mis dans notre plan d'action.
Merci, merci, nous avons compris. Monsieur le gouverneur, que faut-il pour pacifier l'Est du pays de façon durable?
Oui, il y a deux solutions. La première, c'est que les opérations sont déjà en cours. Opération Sokola 1 dans la partie nord, Sokola 2 dans la partie sud, c'est-à-dire ici au sud de la province et au sud Kivu. Et la deuxième solution, c'est la cohésion, la réconciliation entre les communautés pour que les communautés accompagnent les forces armées à devoir pacifier totalement la région du sud Kivu, la région du nord Kivu.
Merci.
Pour qu'à l'issue des opérations, les plaies se cicatrisent davantage et ça sera cimenter la paix dans cette partie de la République.
Monsieur Didier Bitaki, un mot en guise de conclusion.
Je pense que pour rétablir la paix à l'Est, nous devons être sincères. Les opérations en cours avouer encore une fois un échec cuisant. Je pense que la meilleure façon, c'est de recadrer les choses en reconstituant le mécanisme de traque des groupes armés étrangers qui pillent, qui pillent et qui violent. Et ensuite, on reviendra
merci
sur la question des groupes armés nationaux après que...
Merci, nous avons compris. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.